l'amour, la voix par excellence. Et on a des belles, belles choses à voir, des choses qui vont vous aider à marcher dans la victoire. Mais avant d'aller dans la parole, je vais vous inviter à prendre votre Bible dans vos mains. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, vous allez voir, on a donné des feuilles avec presque tous les versets que nous allons lire ce matin, qui sont marqués là-dessus. Mais je vous invite à prendre cela dans vos mains et on va faire une déclaration de la foi qu'on aime faire ici. On va dire ceci, parce que la Bible dit que ce qu'on confesse avec notre bouche et ce qu'on croit de notre cœur s'accomplit. Donc on va dire ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Est-ce que vous avez pensé à ce que vous venez de dire? C'est la parole inspirée de Dieu. On va le dire encore. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Moi, j'y crois. Et vous? Mais aujourd'hui, on va terminer notre série sur la route par excellence. Vous vous rappelez qu'on a appelé ça la route 12-31. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens, chapitre 12 et verset 31 dit, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et par la suite, en Corinthiens 13, l'apôtre Paul commence à décrire l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour agapé. Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est que Paul a comparé l'amour de Dieu avec une route. Et on a fait la comparaison depuis déjà, c'est la 8e semaine qu'on parle de cela. Et si vous avez manqué les autres 7 semaines, je vous encourage à aller sur notre site web et c'est gratuit, vous pouvez écouter ces messages ou sinon vous pouvez procurer une cassette audio et écouter cela. Mais vous savez que on a vu que l'amour de Dieu c'est comme une route. Si on reste sur la route, on arrive à notre destination, n'est-ce pas? C'est sur la route où on a toutes les choses dont nous avons besoin. La provision, il y a des restaurants, il y a les hôpitaux, il y a tout. Les policiers sont sur la route pour nous protéger. Donc, on a vu la provision, la protection, toutes ces choses sont disponibles si on reste sur la route 231. Et de la même façon, si on continue à marcher dans l'amour, on va arriver à notre destination dans la vie. On va pouvoir accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. On va voir la provision de Dieu pour notre vie. On va voir la protection de Dieu sur notre vie. Donc, combien il est important de marcher dans l'amour et de rester sur la 12-31. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment être heureux sur la 12-31. Parce que combien de vous, vous voulez pas juste arriver à votre destination, mais vous voulez être de bonne humeur quand vous arrivez, n'est-ce pas? Combien de vous, vous avez déjà fait des longs voyages, des vacances, exemple, avec les enfants? Hein? Et des fois, si on fait pas les choses comme faut, et si tout le monde n'a pas un esprit de collaboration, de coopération, des fois, on peut faire un long voyage, rester sur la route, mais ça peut être un long voyage qui est vraiment misérable aussi. Mais ça comparé à un voyage qui est agréable, où tout le monde est de bonne humeur, tout le monde s'entend bien, il n'y a jamais de chicane dans le siège en arrière, hein? Je sais que, est-ce que c'est possible? Oui, tout est possible à celui qui croit. Non, mais vraiment, ça c'est une chose, nous avons 5 enfants et souvent les personnes posent la question, mais est-ce que vos enfants sont sages en auto? Mais ça arrive, on a eu des voyages où on a eu pas mal de chicanes dans le siège en arrière, mais en général, je vous dis la vérité, les enfants sont encore plus sages en auto que ailleurs des fois. Parce qu'ils sont habitués, ils ont grandi, ils ont voyagé tellement, mais juste parce que on a toute la parenté qui est 1 200 000 ici, donc à chaque année, si on veut voir les grands-parents, il faut faire 1 200 000 aller simple pour les voir. Donc c'est quelque chose, hein? Quand ils sont habitués, comme un jour, on a fait 2 journées de fil, 10 heures de route, 10 heures de route, et le lendemain, on avait besoin de faire un autre 6 heures pour se rendre à une conférence. Et mon fils, un de mes fils, qui, je pense à l'époque, il avait 7 ans, il a demandé, combien d'heures de route est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Et je dis, on a 6 heures à faire. Ah, ben, c'est pas si pire. c'est un spacieux. Mais ça, c'est de fun. Quand tout le monde est calme, quand tout le monde est sage, quand tout le monde est heureux, le voyage est agréable. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. On ne veut pas juste toffer pendant X années sur la terre et « Oui, on va marcher dans l'amour. » On veut être heureux dans notre voyage, n'est-ce pas? On veut marcher dans l'amour, on veut aimer notre expérience, on veut avoir du fun même sur la route. Mais pour cela, on va regarder un couple de choses que Jésus a dit par rapport à comment être heureux dans la vie. Et ici en Jean chapitre 13, c'est dans vos notes, on va lire l'histoire de Jésus quand il est avec ses disciples, juste avant la fête du Pâque. Ils vont partager le repas du Pâque ensemble, mais verset 1 de Jean chapitre 13, Jésus dit ceci. Avant la fête du Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il mit le comble à son amour pour eux. En fait, Jésus va donner le signe suprême, quelques traductions disent, de son amour pour ses disciples. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus aimait ses disciples? Donc là, il va démontrer jusqu'à quel point il les aime. Verset 2 dit, « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote. » Ça, c'est important, ce verset-là. Parce qu'il faut réaliser qu'il est là avec les 12 disciples, mais sur les 12, il y a un homme qui est déjà inspiré par le diable pour faire quoi? Pour trahir le Fils de Dieu. Donc, regarde bien qu'est-ce qui se passe. Il dit qu'il a déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Donc, on va juste arrêter là pour une minute et je veux que vous compreniez une chose. La culture à l'époque, c'était normal que les pieds des gens soient lavés. Sauf que qu'est-ce qui n'est pas normal avec cette image, c'est que la personne qui est en train de laver les pieds, c'est la personne qui est supposément le maître. C'est la personne qui, en principe, a le plus d'honneur. C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le grand rabbi, le maître. Et c'est lui qui a pris le bassin, c'est lui qui a pris la serviette. Et normalement, c'est la job qui est réservée pour l'esclave. Et pas n'importe quel esclave, mais si une maison avait plusieurs esclaves, plusieurs serviteurs, c'était réservé pour celui qui avait le plus bas rang. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez qu'eux autres, ils ne se promenaient pas en Lexus, ils ne se promenaient pas en automobile, mais la plupart des gens marchaient. Ils portaient les sandales, ils marchaient dans les rues, là où se promenaient aussi les chameaux, les ânes qui laissaient leur carte d'appel dans la rue, etc. Donc, il faut vraiment que vous ayez cette image. Donc, on parle d'une place où il y a beaucoup de poussière, il y a beaucoup d'autres matières. Et tout le monde arrive après le voyage à la maison et normalement, c'est le serviteur le plus bas qui va prendre une serviette, qui va prendre un bassin, qui va laver les pieds des invités. Mais Jésus se lève debout, c'est lui qui prend, parce que de toute évidence, personne n'a osé le faire. Peut-être le serviteur, il n'y avait pas de serviteur cette journée-là. Bon, mais sur les 12, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dit, mais est-ce que tu vas nous laver les pieds? Non, pas moi. Mais Jésus a pris la serviette, il a pris le bassin et il a lavé les pieds de ses disciples. Et la Bible dit que en faisant cela, il a comblé son amour pour eux. Il démontrait jusqu'à quel point il les aimait. Je vous aime jusqu'au point de vous servir, de me rendre comme le plus bas serviteur. Et c'est ça que Jésus dit, n'est-ce pas? Celui qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu doit être le serviteur de tous. Donc, il s'est mis à laver les pieds de tout le monde. Et on dit, bravo Jésus, tu es tellement merveilleux, n'est-ce pas? Mais Jésus n'a pas arrêté l'histoire là. En fait, il y a toute une histoire, vous pouvez le lire vous-même dans la Bible plus tard, que Pierre, il voulait dire, non, non, jamais tu vas me laver les pieds. Tu connais l'histoire. Mais en verset 12, regarde qu'est-ce que Jésus a dit dans vos notes, verset 12. Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous le dites bien, car je le suis. Donc, il n'a pas nié le fait qu'il était le maître et le seigneur. En fait, il est seigneur des seigneurs, n'est-ce pas? Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Wow! Donc, 12 hommes avec les, qui avaient maintenant les pieds propres, mais qui savaient que dans le futur, mes pieds vont encore sales. J'ai besoin de laver les pieds de mon frère a besoin de laver mes pieds. Quelque chose. On continue. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Soulignez cette phrase. Vous êtes heureux. Combien de vous voulez être heureux dans la vie? Vous êtes heureux. Condition. À la condition. Pourvu que vous les pratiquiez. Donc, c'est-à-dire que Jésus est en train de dire, en réalité, si vous savez ces choses, et vous ne mettez pas ces choses en pratique, vous serez malheureux dans la vie. Mais si vous savez ces choses et vous faites ces choses, vous serez heureux. Encore, on veut tous être heureux, mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour être heureux dans la vie? Des fois, on veut être heureux sur nos propres termes, n'est-ce pas? On veut que les choses soient faites selon notre goût, selon notre désir, selon notre plan. Nous pensons avoir la stratégie idéale pour être heureux. On voit ça dans le monde aujourd'hui. Les gens pensent que pour être heureux, plus nous avons des possessions, plus nous avons de pouvoir, plus nous serons heureux. Donc, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour écraser tous les autres afin de monter l'échelle de succès pour avoir plus de biens. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, c'est le contraire. Que quand on s'abaisse, c'est le Seigneur qui nous lève, n'est-ce pas? On va être élevé par Dieu si on s'abaisse soi-même. Mais si on essaie de se lever soi-même, on va être abaissé. N'est-ce pas? La Bible dit clairement, donnez. Et vous voulez avoir plus? Donnez plus. Le monde dit, c'est fou, hein? Mais vous savez combien de fois on voit dans la parole de Dieu les paradoxes. On veut être plus grand, il faut être serviteur. On veut être plus riche, il faut donner plus. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. C'est pas comme ça que ça marche dans le gouvernement du monde, mais dans le royaume de Dieu, c'est comme ça que ça marche. Donc, on voit Jésus, il lavait les pieds de ses disciples, il a dit, je vous ai donné un exemple, maintenant c'est à vous, c'est à votre tour de vous laver les pieds. Je connais des églises, même aujourd'hui, il y a beaucoup des églises qui ont pris ça littéralement, et vont faire des services de laver les pieds. Il n'y a rien de mal, là, sauf que je pense que dans notre jour, ici en 2006, on n'a pas forcément besoin de se laver les pieds physiquement et naturellement. Vous êtes d'accord? La plupart de nous, nous avons des souliers, des bas, et c'est correct. J'espère que vous avez pris un bain cette semaine ou ce mois-ci. Mais on n'a pas le même environnement. Pourtant, on a tous quand même des besoins différents, n'est-ce pas? Et on a quand même une occasion de se mettre au service de l'autre personne. De regarder la personne et dire, qu'est-ce que je peux faire pour lui rendre service? C'est comme ça que je peux suivre l'exemple de Jésus. C'est comme ça que je peux aimer mon prochain comme moi-même. C'est comme ça que je peux rester sur la route 12-31. Je peux rester dans la voie par excellence. Et si je me rends serviteur de tous et je reste sur la 12-31, je vais être heureux dans la vie. Je pensais à cela. Parce qu'encore, nous avons pendant ces 8 semaines regardé les parallèles entre la route dans le naturel et la vie chrétienne, la marche d'amour. Et je pensais à ça. Aujourd'hui, on veut tous prendre la route 231 et rester sur la 231 pour le restant de notre vie. On veut être heureux sur cette route. Mais c'est comme quelqu'un qui est un nouveau conducteur. avant de prendre le volant, avant d'avoir le droit de se promener en auto sur les autoroutes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer des examens, n'est-ce pas? Combien de vous conduisez une auto? Maintenant, pas une question piège, combien de vous avez passé un examen? Non. Si vous n'avez pas levé la main à la deuxième question, mais ça, on a un problème, non. Mais on a des examens à passer qui vont prouver que nous sommes capables de rester sur la route sans faire mal à quelqu'un d'autre ou sans se faire mal soi-même. Vous êtes d'accord? Et premièrement, c'est dans vos notes, il faut passer l'examen théorique. Il y a des théories qu'il faut comprendre. Il faut comprendre dans notre tête qu'est-ce qui va se passer sur la route, n'est-ce pas? Il faut comprendre et connaître le code de la route. Il faut connaître les règlements de la route. Il faut connaître et être capable de reconnaître tous les panneaux. Qu'est-ce que cela veut dire, une lettre P avec une ligne rouge? Hein? Défense stationnée. Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit une telle chose? Il faut comprendre d'une façon théorique les principes pour être capable de prendre la route. Mais imaginez si c'était la seule chose qu'on connaissait. Imaginez une personne qui, pendant des années, étudiait son manuel et étudiait pour son examen théorique. Il faisait tout cela pendant des années, des années, des années. Il a même passé son examen théorique. Mais là, il passe jamais à l'autre étape. C'est quoi l'autre étape? On a un examen pratique aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir dans une auto à côté d'un conducteur, une conductrice expérimentée et autorisée pour nous juger, n'est-ce pas? On a besoin de conduire et de montrer à cette personne qu'on sait quoi faire, pas juste en théorie, mais il faut être capable de le faire dans la vraie vie aussi, n'est-ce pas? Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont manqué la coche, on pourrait dire. Il y a beaucoup de chrétiens, nous avons saisi le côté théorique de la marche d'amour. On sait qu'est-ce que la Bible dit. Quand la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour lui-même. On peut citer ces versets. On connaît la parole quand elle dit que femme, ayez du respect pour vos maris. On connaît ces choses. On connaît qu'est-ce que la parole de Dieu dit quand elle dit, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Supportez-vous les uns les autres. La plupart de vous, si vous êtes venu à l'église pendant ces 8 semaines, vous devriez être capable de citer au moins 1, 2, 3, 4 versets sur l'amour agapé de Dieu, n'est-ce pas? Donc, c'est là. En théorie, vous connaissez comment ça marche. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire sur la 1231. Vous savez qu'il faut jamais prendre les sorties. Vous savez qu'il faut toujours faire le plein, n'est-ce pas? Vous savez toutes ces choses en théorie. Et c'est bien beau quand on vient ici le dimanche matin. Et on peut dire, oui, je vais rester sur la 1231. Mais c'est lundi matin. Quand le cadran sonne et vous n'avez pas le goût de vous réveiller, vous n'avez pas le goût de voir la face de votre patron. Et vos émotions disent, ah, encore une autre journée. C'est là où le vrai test, l'examen pratique commence. N'est-ce pas? Imaginez quelqu'un qui connaît parfaitement, qui a fait en 100% sur son examen de conduite théorique. Il a répondu à toutes les questions exactement comme il faut. Mais la personne arrive, la journée de son examen pratique, s'assoit à côté du professeur, il dit, mais je sais pas exactement, c'est où que je mets la clé? Est-ce que ça va où exactement? Ça va dans le switch. OK, bon! Puis, la personne essaie de tourner ça, le moteur part, et puis, quelque part ici, ah oui, il y a un truc ici, il faut mettre ça, quoi? Lettre R, n'est-ce pas? Reculer? Mais déjà, le professeur, la personne qui va juger, et qui va soit passer ou dire non, ça marche pas, la personne est déjà un peu nerveuse, hein? Ce conducteur ne sait pas. Pas où mettre la clé, il sait pas comment faire pour reculer. S'il prend la route et il conduit à 100, 140 km de l'heure et ne respecte pas les panneaux, penses-tu que la personne va réussir son examen? Jamais. Donc, c'est la même chose. C'est pas assez de savoir dans votre tête qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pas qu'est-ce que tu sais qui fait la différence, c'est qu'est-ce que tu fais. Donc, même une personne qui a 100% sur son examen écrit, rendu à la pratique, s'il n'est pas capable de rester sur la route, s'il n'est pas capable d'arrêter au stop, s'il n'est pas capable de faire les choses comme il faut dans la pratique, ça marche pas. Et c'est là où vous et moi, nous avons besoin de savoir que le vrai test de la vie, pour être vraiment heureux dans la vie, pour rester vraiment sur la 1231, c'est pas une chose qu'on fait dimanche à l'église, c'est une chose qu'on fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi aussi, n'est-ce pas? Hey, je sais tous les jours de la semaine, c'est pas pire. Bon. Regardons. Il y a un verset ici en Jacques, chapitre 1, verset 21. Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole. Regarde, quelqu'un a dit, mettez en pratique la parole. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Combien de personnes viennent à l'église à tous les dimanches matins? On écoute la parole, mais on la met pas en pratique. C'est pas bon, ça. En fait, c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui sont malheureux, n'est-ce pas? Ils sont malheureux parce que ils font pas les choses qu'ils savent faire. Mettez en pratique la parole et vous ne bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Savez-vous, une personne qui connaît la parole dans sa tête mais qui ne met pas la parole en pratique, c'est une personne qui s'est trompée lui-même. Parce qu'on a la fausse impression qu'on marche dans l'amour des fois, parce qu'on sait quoi faire. Mais si on ne fait pas, ça ne change rien. C'est comme, combien de vous, vous savez qu'en réalité, pour rester en bonne santé, il faut manger bien. Il ne faut pas manger trop de sucre. Il ne faut pas manger trop de gras. Il ne faut pas manger trop de cochonneries. En réalité, c'est important de dormir assez et c'est important d'avoir un peu d'exercice aussi, n'est-ce pas? Combien de vous, vous savez que c'est ça que ça prend pour rester en bonne santé? Là, je ne vais pas vous demander à lever la main, mais combien de vous, vous mangez bien, vous dormez assez et vous faites de l'exercice régulièrement? Ceux qui le font sont ceux qui sont heureux. Amen? Mais, là, je sais qu'il y a des personnes, moi, j'avais une personne dans ma parenté même qui, en fait, c'était ma grand-mère que j'aimais de tout mon cœur, mais elle n'a pas vécu aussi longtemps qu'elle aurait dû. Mais à tous les jours, elle mangeait que des hot dogs brûlés, parce qu'elle aimait ça brûlé. Un hot dog brûlé avec un Pepsi. À tous les midis, hein. Elle a dit, oh, mais je veux mourir heureuse. Mais elle est morte trop vite. Mais j'ai dit ça avec le respect, n'est-ce pas? Des fois, on dit, oh, on veut avoir des fun, on veut avoir des plaisirs. Mais oui, mais moi, je veux faire la volonté de Dieu sur la terre aussi, n'est-ce pas? Je veux accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Je veux pas mourir avant le temps. Je veux finir et achever la course que le Seigneur m'a confiée, et vous? Mais pour faire cela, il faut mettre la parole en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, mais il s'arrête pas là, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Soulignez cette phrase, se mettant à l'œuvre. Celui-là sera quoi? Heureux dans son activité. Moi, je veux être heureux dans mon activité. Vous? Pour être heureux dans notre activité, il faut être ceux et celles qui mettent la parole en pratique et pas juste les auditeurs oublieux. Donc, si vous voulez regarder avec moi, juste pour terminer aujourd'hui, on a trois conseils pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer l'examen? Pas théorique seulement, mais aussi l'examen pratique, parce que ça prend les deux. On peut pas juste arriver à faire la pratique sans le théorique. On peut pas juste faire le théorique sans la pratique. Ça prend les deux ensemble. C'est la même chose spirituellement. Il faut connaître la parole de Dieu et ensuite il faut la mettre en pratique. Amen? Donc, numéro un, qu'est-ce qu'on doit faire? Si quelqu'un veut passer dans le naturel un examen de conduite pour avoir son permis, il faut, numéro un, étudier son manuel, n'est-ce pas? Il faut étudier le manuel. Il faut savoir. Ça veut dire quoi? Un panneau de même. Ah, ça veut dire que c'est une route à sens unique. Il faut prendre le temps d'ouvrir le manuel et de regarder et d'étudier et de voir c'est quoi le code de la route. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je suis supposé de faire quand je vais prendre le volant? Donc, c'est la même chose spirituellement. Si vous n'ouvrez jamais votre Bible, vous allez avoir de la difficulté à rester sous la 1231. Il faut ouvrir votre manuel. Ça, c'est votre manuel. Tout le monde dit, ça, c'est mon manuel. Alléluia! Il faut la connaître. Et laisse-moi vous dire, un jeune homme de 16 ans qui a hâte d'avoir son permis de conduire, incroyable, parce qu'il est motivé. Même le gars qui déteste les livres, il va prendre un livre, des fois. Il va l'étudier comme il faut pour avoir son permis, n'est-ce pas? Et c'est la même chose. Je sais que des fois, c'est pas juste de temps en temps, mais souvent, je rencontre des chrétiens qui disent, mais moi, je déteste lire. Ben, c'est correct. Hein? Fais quelque chose. Procurez le Nouveau Testament ou quelque chose sur cassette audio ou sur MP3. Au moins, écoutez, étudiez votre manuel, que ça soit sous forme de livre ou sous forme de cassette. Étudiez votre manuel. Si vous voulez passer l'examen, il faut étudier le manuel, n'est-ce pas? Mais souvent, je crois que c'est juste une question de priorité. Parce que le jeune homme qui déteste lire va quand même prendre le temps d'étudier son manuel pour avoir son permis de conduire, n'est-ce pas? Ou il va trouver un moyen, il va se débrouiller, il va trouver quelqu'un qui va le lire à lui. Il va trouver quelqu'un pour le coacher. Fais quelque chose pour arriver à comprendre le contenu du manuel. Parce que si vous ne connaissez pas le contenu du manuel, vous allez rater l'examen. Est-ce que vous êtes là?
Oui.
Bon. Mais vous n'êtes pas les gens qui vont rater l'examen. Vous allez les gens qui vont le passer, la réussir avec honneur, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, étudiez le manuel. Il y a un verset là-dedans qui dit, dans le psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi, ou on peut dire la parole de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Laisse-moi vous dire, si vous voulez rester sur la 1231, marcher dans la provision de Dieu, marcher dans la protection de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Est-ce que cela veut dire qu'il faut avoir toujours la Bible sous vos yeux, jour et nuit? Non, mais il faut quand même avoir la parole plantée dans votre cœur. Vous êtes capable d'aller puiser et de méditer les vérités tout au long de la journée, n'est-ce pas? Josué 1:8 dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras et c'est alors que vous serez heureux dans la vie, n'est-ce pas? Alléluia! Donc prenez le temps, étudiez votre manuel, méditez votre manuel. Numéro 2, deuxième chose qu'on a besoin de faire, suivez l'exemple de Jésus. Jésus a dit, je vous ai donné un exemple à suivre. J'ai lavé les pieds de mes disciples, maintenant c'est à vous de laver les pieds les uns les autres. Mais il faut suivre l'exemple de Jésus. Comme un conducteur qui veut conduire une auto, la plupart de nous, on avait besoin d'observer un conducteur qui avait déjà de l'expérience. La plupart de nous, on n'a pas pris le volant sans jamais prendre le temps de regarder une autre personne qui conduisait une auto. Vous êtes d'accord? On a au moins, si c'était conscient ou sous-consciemment, on a au moins observé. On a vu, bon, il prend le volant comme ça, il pèse avec son pied sur le gaz. OK, je vois comment ça fonctionne. Savez-vous qu'on a besoin de faire la même chose pour marcher dans l'amour? Je vous encourage à trouver les modèles à suivre. Et le premier modèle à suivre, c'est Jésus, n'est-ce pas? Et on peut regarder dans la parole et voir qu'est-ce que Jésus a fait. On peut se poser la question, on est sur la 1231, on ne sait pas quoi faire, on se pose la question, que ferait Jésus à ma place? Et normalement, c'est pas dur à savoir qu'est-ce que Jésus ferait. Posez-vous la question, c'est pas dur à savoir, parce qu'on agirait avec équité. Jésus démontrait toujours la compassion et la miséricorde, même s'il est ferme, il est quand même miséricordieux. On sait comment Jésus allait réagir. Et ça, c'est l'exemple que nous avons besoin de suivre. Regardons. Verset, dans vos notes, Jean 13, 1. C'est pourquoi il voulut donner aux siens qu'il allait rester dans ce monde une preuve suprême de l'amour dont il les avait toujours aimés. Donc, la preuve suprême que Jésus a donnée, c'était de servir ses disciples. Et en 1 Jean, chapitre 2, verset 5, regarde bien. Bon. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est-à-dire que si je vais me dire chrétien, si je vais dire à tout le monde, je suis chrétien, j'aime Jésus, ma responsabilité, c'est de marcher de la même façon que Jésus a marché sur la terre. Amen? Ça, c'est le côté pratique. Ce n'est pas théorique, c'est pratique. Ce que Jésus a fait, j'ai besoin de faire la même chose. De la même façon que Jésus a pardonné, j'ai besoin de pardonner. De la même façon que Jésus a parlé et a agi avec les autres, j'ai besoin de faire la même chose. 1 Pierre chapitre 2, verset 21 dit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, soulignez ce mot, un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Donc ça, c'est comme ça qu'on va réussir notre examen pratique, c'est en suivant dans les traces de Jésus. N'est-ce pas? Combien de vous avez eu la belle expérience de conduire dans une tempête de neige? On sait c'est quoi, hein? Je m'en souviens à plusieurs reprises, en faisant la route entre Sherbrooke et Drummondville, quand on faisait des réunions là, tous les mardis soirs à Sherbrooke, mais souvent, plusieurs fois, on a eu une tempête sur la 55. Visibilité, zéro. Heureusement, souvent, il y avait des camions juste devant nous, juste devant moi, et puis j'étais capable de suivre dans les traces, n'est-ce pas? Parce que je ne voyais plus la route. Hein? Il m'est arrivé des fois même d'être obligé de sortir de l'auto et de dire, est-ce que la route est là? Parce qu'on parle d'une grosse tempête, tout le monde allait à 10 km à l'heure. C'est long, hein? Ça fait un voyage de 3 heures de Sherbrooke à Drummondville. Mais vous savez que c'est le fun des fois quand on a quelqu'un qui est plus grand, comme un camion des fois, hein? Qui peut-être voit un peu plus loin. Et on peut suivre dans les traces de ce camion-là, ou suivre les lumières du camion. Jésus, il est plus grand que nous. Il est plus puissant que nous. Il sait quoi faire. Et aussi longtemps qu'on suit la lumière de Jésus, et on suit dans ses traces, on va se rendre à notre destination en toute sécurité, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on a besoin de faire. Et heureusement, Jésus a aussi des disciples et des enfants sur la terre qui sont plus avancés que nous. Et on peut regarder et voir un autre homme, une autre femme, comme l'apôtre Paul a dit, « Suis-moi comme moi je suis le Christ. » Et on peut trouver les modèles à suivre, les exemples à suivre. Ça nous aide à rester sous la 1231 et être heureux sous la 1231. Éphésiens 5, 1 dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc, numéro 3, on va étudier notre manuel, on va suivre l'exemple de Jésus. Et numéro 3, il faut bannir vos craintes et il faut prendre la route, tout simplement. Bannissez vos craintes et prenez la route. Qu'est-ce qui est vraiment triste, c'est de voir des personnes, des fois, qui ont peur d'oser. Ils ont peur d'oser faire quoi que ce soit qu'ils n'ont jamais fait dans le passé. Ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur d'échouer, et parce qu'ils ont peur, ils font rien. Mais laisse-moi vous dire, une décision de faire rien, c'est quand même une décision. Mais j'ai peur de prendre une mauvaise décision, donc je fais rien. Vous venez de prendre la pire des décisions en faisant rien, n'est-ce pas? Donc c'est la même chose quand on parle de rester sur la 12-31. C'est quoi qui nous empêche de marcher dans l'amour avec les autres? C'est la peur, c'est la crainte. Quand Dieu dit « pardonnez-vous réciproquement », pourquoi est-ce qu'on ne veut pas pardonner? Parce qu'on a peur que la personne va encore nous faire mal. Ou on a peur que la justice ne se fera pas. N'est-ce pas? On craint que si je laisse la personne aller, je dis « bon, je vous pardonne », que la personne va être heureux. On a peur de ça. N'est-ce pas? Parce qu'on veut que la personne souffre, parce qu'il nous a fait souffrir. Mais en réalité, Jésus a souffert à notre place, et Jésus a souffert à la place de cette personne. Donc, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. On n'a pas peur, on ne devrait pas avoir peur de marcher dans l'amour. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. On a peur de ça, mais on ne devrait pas. Femme, ayez du respect pour vos maris, mais j'ai peur de ça, parce que si je commence à avoir du respect pour mon mari, ça se peut qu'il ne va pas changer. Il faut que je lui dise qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas correct. Il faut que je le répète continuellement. Il faut que je lui rappelle sans cesse tous ses problèmes. Parce que là, il va changer. Mais savez-vous, ils ont découvert que souvent, c'est le contraire. Si tu commences à respecter les gens, ils vont voir que, hey, la personne a du respect pour moi et on veut être à la hauteur de l'image que l'autre personne a dans sa tête à propos de nous, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alléluia! Donc, ça va dans les deux sens. On ne devrait pas avoir peur d'avoir... Dieu est notre juge. Dieu est celui qui va, quand toute cette histoire est terminée, on ne va pas se tenir devant le tribunal de notre épouse, ou le tribunal de notre mari, ou le tribunal de notre patron, ou le tribunal de notre frère ou soeur. On va tous se tenir debout devant le tribunal de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est lui qui va nous récompenser pour qu'est-ce que nous avons fait étant dans notre corps. Donc, vaut mieux se mettre sur la 12-31, marcher dans l'amour et laisser Dieu être le juge. Amen? Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait devenir les tapis, on devrait juste se taire et jamais dire notre opinion. C'est pas du tout que je ne suis pas en train de dire cela. Mais je suis en train de dire tout simplement qu'il faut communiquer avec amour et mettre les choses qu'on sait dans notre tête en pratique sur une base régulière. Regardons, il y a un couple d'autres versets qu'on va lire ici. Alléluia. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Mais Matthieu 7, verset 24 dit ceci. Jésus qui parle, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Quelqu'un qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, soulignez cette phrase, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc, on a le choix. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va être comme une maison qui est capable de supporter et de affronter même toutes les mauvaises températures et tous les problèmes de la vie, ou est-ce qu'on veut être une maison qui termine dans une grande ruine? Moi, je pense que vous voulez tous être heureux, vous voulez tous avoir du succès, vous voulez tous réussir votre vie. N'est-ce pas vrai? Jacques 4, 17 dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Jusqu'à quel point c'est sérieux? Laisse-moi vous dire, connaître la volonté de Dieu et ne pas faire la volonté de Dieu, la Bible dit que ça, c'est un péché. Mais heureusement, Jésus nous a délivrés du péché. On n'est plus obligé d'être esclaves du péché. Nous sommes esclaves maintenant de la justice. Et parce que Dieu nous a régénérés, parce que Dieu a envoyé son Fils unique pour être pas juste un modèle pour nous, pas juste un exemple à suivre, mais il est venu aussi pour être un sacrifice et un substitut pour nos propres péchés, n'est-ce pas? Parce que je suis né de nouveau, j'ai une nouvelle nature, l'amour parfait de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Tout le monde dit ceci, si je suis né de nouveau, l'Esprit Saint habite en moi et l'amour agapé est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et je suis capable de marcher dans l'amour, de rester sur la 1231. Je vais étudier mon manuel. Je vais suivre l'exemple de Jésus. Je vais bannir mes craintes avec l'amour. Je vais prendre la route. Je vais rester sur la 1231 pour le restant de ma vie. C'est ça qu'on a besoin de faire. Pas juste l'examen théorique, mais l'examen pratique. À tous les jours, on marche dans l'amour. Et si on fait une erreur, si on se trompe, si on sort de la 1231, on ne va pas se laisser condamner, on ne va pas laisser l'accusateur des frères dire, tu vois, c'est fini maintenant, c'est fait. On va dire, non, Seigneur, je m'excuse, je me repens, je reprends la 1231. Pardonne-moi, Seigneur. Et je reprends la route, la voie par excellence, l'amour de Dieu. Alléluia. Si Jean-Charles peut venir au piano, on va terminer là, mais aujourd'hui, on a l'occasion merveilleuse de recevoir ensemble le repas du Seigneur. Et je crois que ça tombe bien que la dernière journée de cette série, qu'on peut prendre le repas du Seigneur ensemble. En fait, c'était lors du repas que Jésus s'est levé, qu'il a pris la serviette, qu'il a pris le bassin et qu'il a commencé à démontrer son amour et qu'il a donné aux siens une preuve suprême de son amour pour eux en les servant, en les lavant les pieds. Et aujourd'hui, on a l'occasion de prendre une décision. Je vous invite à prendre une décision de qualité que, à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre le temps qui est nécessaire d'étudier votre manuel et de voir comment marcher dans l'amour. Que vous allez suivre l'exemple de Jésus, marcher sur ses traces. Et que vous allez bannir vos craintes et prendre la route. Et dire, bon, je vais le faire, je fonce. J'ose le faire. Alléluia. Mais avant de recevoir le repas du Seigneur, j'aimerais juste qu'on ferme tous les yeux. Parce que vous savez que, selon la parole de Dieu, la Sainte Cène, c'est une chose qui est tellement, tellement sacrée que la Bible dit que chaque personne, avant de recevoir la coupe et avant de recevoir le pain, chaque personne doit s'examiner soi-même. Il ne faut pas prendre le repas du Seigneur d'une façon indigne. Cela ne veut pas dire que nous avons besoin d'être à la hauteur de Dieu, mais il ne faut pas prendre le repas du Seigneur d'une manière indigne, avec un manque de respect pour la signification. En fait, ceux et celles qui vont recevoir le repas du Seigneur doivent faire partie de la famille de Dieu. Ce n'est pas nécessaire que vous fassiez partie de cette église locale. Vous pouvez faire partie d'une autre église, ou peut-être vous êtes venu ce matin, et c'est la première fois peut-être dans une église, mais aujourd'hui, si vous ouvrez votre cœur à Jésus, et si vous voulez lui donner votre cœur, vous voulez lui donner votre vie, vous pouvez faire partie de la famille de Dieu, la famille universelle de Dieu, qui dépasse les confessions, qui dépasse les dénominations, qui est plus grand que le nom au-dessus de la porte d'une église locale. Vous avez l'occasion aujourd'hui de faire partie de la famille de Dieu. Et avant d'offrir le repas du Seigneur, je veux offrir premièrement la vie éternelle à tous ceux et celles qui sont ici. Comme ça, quand on va distribuer la coupe et on va distribuer le pain, vous allez pouvoir participer avec nous, avec une conscience qui est pure et nette, parce que la Bible dit, écoutez bien, que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, c'est-à-dire il est ton maître, et qu'à partir d'aujourd'hui tu vas le servir. Même si depuis toute ta vie tu as servi autre chose, tu te sers peut-être juste toi-même, tu as vécu pour toi-même, une petite vie égoïste. Peu importe qu'est-ce que tu as fait dans le passé, peu importe les péchés que tu as commis, peu importe les mauvais coups que vous avez faits, qu'aujourd'hui, en confessant Jésus comme sauveur et comme Seigneur et comme Maître, le sang de Jésus va laver tous vos péchés, va vous purifier et vous allez pouvoir commencer une vie nouvelle à zéro. Vous serez blanc comme la neige, comme si vous n'avez jamais péché de votre vie. Ça, c'est un don gratuit. Vous ne pouvez jamais mériter ce salut. Mais il faut tout simplement recevoir par la foi. Comment? En priant une prière de la foi. Une prière qui vient de votre cœur. Et si vous voulez aujourd'hui, si vous êtes ici et vous dites, mais pasteur, je ne sais pas si j'ai la vie éternelle ou non. Je n'ai pas vraiment l'assurance d'être sauvé, d'être dans la famille de Dieu. J'aimerais, je crois en Jésus. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est crucifié. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts, mais je n'ai pas encore l'assurance qu'il est dans mon cœur, que j'ai une place réservée pour moi au ciel. Si c'est le cas aujourd'hui, je vous invite à juste lever la main, je veux prier avec vous. Vous pouvez donner votre vie à Jésus. Vous pouvez devenir un enfant de Dieu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dirait oui, parce que je veux donner ma vie à Jésus, je veux être né de nouveau. Juste lever la main. Il y a une personne, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il y a une personne ici qui a levé la main. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à la personne qui a levé la main de faire quelque chose qui... Ça va prendre un peu de courage, mais c'est bon parce que Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Et en faisant cela, ça va t'aider avec une assurance de savoir que ta décision pour le Seigneur Jésus était sérieuse, que tu es vraiment né de nouveau, que tu as une place réservée pour toi au ciel. Je veux demander que tu viennes avant. On va juste prier avec toi. Alléluia, ça prend du courage de le faire, mais merci Seigneur. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour lui ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alléluia. Tu peux juste regarder moi, je vais prier avec toi. C'est Patrick.
Exactement.
Alléluia. Moi, j'aimerais inviter tout le monde à prier cette prière avec Patrick aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de le rejoindre ce matin, qui a besoin de donner son cœur à Jésus? Juste viens, ne sois pas gêné. On va tous prier cette prière. Père Céleste, répète ici après moi. Père Céleste, au nom de Jésus, je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est mort pour moi, qu'il était enterré et ressuscité le troisième jour. Merci Seigneur, que maintenant le Saint-Esprit est entré dans mon cœur et a fait de moi une nouvelle création. Je suis enfant de Dieu, je suis sauvé de mes péchés, je suis la justice de Dieu. En Jésus. Merci pour ce don. Merci pour la vie éternelle. Je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Patrick, on a quelqu'un ici qui va... Sylvain, si tu peux venir tantôt. On va prendre le repas du Seigneur, mais juste après... Sylvain est là, il est disponible pour répondre à tes questions et on a un cadeau qu'on aimerait te donner aussi. On a une Bible qu'on veut t'offrir gratuitement. Mais peut-être après avoir pris la Sainte-Seine, tu peux aller avec lui dans la salle de prière. Et on va remercier le Seigneur encore pour lui. Vous pouvez juste asseoir ici, peut-être avec Sylvain. Alléluia. Dieu est bon, n'est-ce pas? Si les hommes, les femmes, je ne sais pas aujourd'hui, c'est qui sert, le repas du Seigneur veut venir et commencer à distribuer. Ça vaut la peine de prendre le temps de prier avec une âme pour qu'il revienne au Seigneur, n'est-ce pas? Jésus dit que si un pécheur se répand, que tous les anges des cieux se réjouissent. Savez-vous combien d'anges il y a au ciel? sais pas exactement le nombre exact, mais c'est des milliers, probablement des millions d'anges qui aujourd'hui sont en train de chanter, de célébrer un gros party qui se passe au ciel à cause de Patrick. Amen! Alléluia! C'est bon! Si vous voulez commencer tout de suite à distribuer le pain et la coupe, sans hésiter...